Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. On vous en a raconté des histoires extraordinaires, mais alors celle-là. L'histoire que vous allez entendre, c'est une histoire d'âme sœur, de destin, de foi. L'histoire de Bernard, c'est celle d'un amour à toute épreuve, inextinguible, inébranlable, indestructible. C'est l'histoire d'un amour fou.
J'ai 24 ans. Je travaille, en fait, j'ai commencé à travailler jeune et donc je travaille déjà depuis 2 ans. Bon, finalement, un parcours d'un bon élève qui continue comme bon élève à commencer à travailler dans la finance. Je me dis, ben voilà, j'ai la chance d'avoir un job, je gagne correctement ma vie, ce qui fait que ça me permet de faire plein de choses à côté, parce que voilà, j'ai toujours eu une vie largement remplie. Et effectivement, j'ai un souvenir, voilà, d'un rayon de soleil dans une rencontre chez des amis, tout à fait par hasard. Une première rencontre un peu furtive, un peu passagère. Et puis, petit clin d'œil, 9 mois après, on se retrouve, cette fois-ci un mariage. Et là, il y a un flash. Je me rappelle encore de sa tenue, je me rappelle encore de la façon dont elle était coiffée. Elle s'appelle Anne-Claire. Elle a 1 an de moins que moi, donc elle a 23. Elle est pétillante, elle est lumineuse, elle rit tout le temps, elle croque la vie. Moi qui est toujours flashé pour les blondes, et les blondes aux yeux bleus, elle est très brune aux yeux verts, avec un regard malicieux, un grand sourire qui est contagieux, parce qu'en fait, elle fait rire tout le monde. Et en même temps, très discrète. C'est pas tapageur, c'est une présence à l'autre sans être une présence écrasante. On a des amis en commun et on a la musique en commun. Et en fait, ce sont des amis communs qui, ne sachant pas qu'on se connaît, nous demandent à l'un et l'autre de jouer et de chanter pour leur mariage. Et on se retrouve tous les deux, par hasard, à ce mariage. Finalement, comme il y a beaucoup d'instruments et qu'en fait, on chante tous les deux, on décide de chanter à deux. L'histoire commence à partir de là, vraiment. L'un et l'autre en rentrent dans les groupes d'amis de l'autre. Voilà, on commence à avoir des week-ends ensemble, des moments ensemble. On est passionnés tous les deux par la musique. Un peu plus tard, effectivement, on rentrera tous les deux dans un groupe musical ensemble. Fin août 85, on décide qu'on fera notre vie ensemble. C'est ma déclaration. On avait passé pendant l'été un certain nombre de moments ensemble avec des amis, etc. Et puis après, Anne-Claire rentre pour travailler. Moi, je termine mes vacances, ce qui me permet aussi de vivre 8 jours loin d'elle et donc voilà, de mûrir mon projet. Et donc, ce lundi de fin août 1985, je lui dis, Anne-Claire, est-ce qu'un jour tu voudrais être ma femme? Elle n'attendait que ça. Un joli moment. Et donc, en fait, voilà, tout un parcours pour préparer notre mariage. Et on se marie le 24 mai 1986. Nous venons de fêter cette semaine nos 36 ans de mariage. On se marie en Champagne parce que ma belle-mère est champenoise. On se marie dans une belle église avec tous nos amis, toute notre famille. Un moment très joyeux, très musical, très spirituel aussi, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Une journée inoubliable dans un très beau lieu entouré de vignes où le champagne coule à flot. Très festif, avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. En fait, moi, j'ai un groupe d'amis qui sont toujours des amis chers, qui sont des joyeux drilles. Donc, en fait, on a droit à des discours pas possibles. Tout le sketch, quand on part, on repart le soir. Enfin, bon, bref. Donc, on a l'impression que c'est passé en une demi-heure. Et en fait, voilà, c'est toute une journée entière. Très fort, très fort, très fort. Voilà. Entouré de tous ceux qu'on aime. Et voilà, là, on est dans le bonheur absolu. On part ensuite 15 jours en Crète. Après, la vie reprend. On a le projet de partir à l'étranger. Donc, à ce moment-là, Anne-Claire travaille chez Hachette à la direction internationale. Je suis en train de vouloir quitter mon entreprise, qui était une entreprise franco-française. Et donc, je commence à m'activer et me plonger dans le marché du travail pour chercher un job dans un groupe étranger pour pouvoir partir. On a beaucoup de points communs. D'abord, de croquer la vie à pleines dents. En fait, on adore la vie tous les deux. Et du coup, on adore les enfants. Donc, en fait, Camille va naître en octobre 87, une petite année et demie après notre mariage. On adore les amis, on adore la musique, on adore le théâtre, on adore les voyages, on adore la rencontre. On a des vies hyper remplies, très actives, en même temps déjà une vie tournée vers la fragilité. Parce que en fait, Anne-Claire a 2 neveux touchés par une maladie génétique, l'aîné de ses 2 neveux et son filleul. Et donc Anne-Claire va toujours être très présente et du coup développe cette sensibilité à la fragilité et qui me rejoint. Voilà, j'ai pas vécu cet environnement, mais c'est quelque chose qui m'a toujours touché. La fragilité des personnes, la beauté dans la fragilité. On fait pas mal de rencontres aussi parce qu'on a l'idée de s'engager, pour bénévolement dans une association. Donc, en fait, c'est une mosaïque de 1000 choses. Et en fait, on fait le choix d'avoir des enfants rapprochés. Donc effectivement, la famille va s'étoffer très vite, puisqu'en fait, Camille naît en octobre 87, Émeric va naître en mai 89, puis Anaïs en décembre 90, et Timothée naîtra en juillet 93. Anne-Claire a à ce moment-là des passages difficiles chez Hachette, parce que voilà, c'est la vie de l'entreprise et des restructurations, etc. Anne-Claire quittera Hachette. Moi-même, je vais changer à nouveau d'entreprise. Je vais rentrer dans une banque anglaise. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a des vrais projets de partir à l'étranger. Donc, je travaille dans une banque anglaise, mais donc avec un réseau international. Anne-Claire étant bilingue anglais, c'est aussi une facilité. Et donc, voilà, on commence à rêver. On a un fourmillement d'idées pour partir loin. Et puis, bah, en fait, les choses ne se feront pas. Les choses ne se feront pas parce qu'en fait, mon entreprise va elle-même vivre des moments extrêmement difficiles qui amèneront d'ailleurs mon départ de l'entreprise en mai 1996 dans des conditions difficiles. Et donc, voilà, adieu vos vaches cochons couvées, comme dirait La Fontaine. Donc, plus de projets à l'international, une période de chômage dans un contexte pas facile. Ce qui est beau, c'est en fait, cette période difficile est un moment très fort pour nous dans notre vie de couple. Anne-Claire a été extraordinaire à ce moment-là. C'est un soutien psychologique, humain, amoureux aussi, une force tranquille, une force joyeuse, avec une capacité de résilience incroyable, une capacité de recul par rapport aux choses et du coup une solidité dans la tempête incroyable. Et Anne-Claire est extraordinaire dans ce cadre-là. Extraordinaire aussi pour un facteur de stabilité pour les enfants qui sont jeunes, puisqu'en fait, l'arrivée des enfants, c'est un ciment. Et en même temps, il faut être lucide, un facteur aussi déstabilisant, parce qu'en fait, nos quatre enfants sont nés rapprochés. À la naissance de Timothée, le quatrième, Camille avait à peine 6 ans. C'est beaucoup d'implications, de présence, des nuits difficiles, et beaucoup de nuits difficiles. Et en même temps, le renforcement de beaucoup d'écoute entre nous et beaucoup de respect et d'intérêt de l'un et l'autre pour la vie de l'autre. C'est une période où Anne-Claire va enchaîner des périodes de chômage, un job qu'elle reprend et qui n'a pas de suite, etc. Donc, des périodes difficiles pour elle, des périodes aussi de jeune maman avec de la fatigue, du stress, enfin, beaucoup de choses. Et pour moi, c'est une évidence que tout est facteur d'intérêt, y compris dans sa journée où elle s'est occupée des bébés et que ça, c'est tout aussi estimable que ma vie professionnelle à négocier des gros contrats avec des Anglais ou des Américains. Donc, c'est une habitude presque inconsciente dans notre fonctionnement de couple, de partager, de communiquer, de s'enrichir, de s'écouter, de se conseiller. C'est primordial, en fait. Et en même temps, ça n'a jamais été une vie fusionnelle. C'est-à-dire qu'on a chacun nos rythmes et on a des personnalités très différentes. Le secret, c'est l'écoute de l'autre et c'est l'enrichissement par l'autre. La rencontre de l'autre, et quand l'autre, c'est son conjoint, bah, c'est quelque chose de merveilleux. Et l'autre qui change, voilà, qui va se transformer, qui vit son chemin, mais un beau chemin. Voilà, nos enfants grandissent, on se tape 4 crises d'ado, bien violentes. Pour le coup, c'est un vrai facteur de tension dans notre couple, vraiment. Parce que, en fait, voilà, on n'a pas forcément les mêmes passés, nous-mêmes en tant qu'ados, et donc les mêmes expériences et les mêmes approches. Et puis, voilà, des choix pour faire de nos enfants des enfants bien dans leur basket, bien ancrés, bien équilibrés, généreux et voilà, tournés vers l'autre. Donc, ils vont aussi vivre beaucoup de moments avec leurs cousins handicapés. Et donc, en fait, c'est aussi l'apprentissage d'un autre regard sur la vie, d'une quête de sens qui va beaucoup les marquer, qui les aidera beaucoup pour la suite. Donc, des années avec des enfants qui font des études, des enfants qui partent à l'étranger, des enfants qui partent pensionnaires. On a continué à faire beaucoup de musique. Donc, en fait, tous nos enfants ont joué d'un instrument ou d'instruments au pluriel, où on fait du chant. Et donc, en fait, la musique est vraiment le ciment. On chante beaucoup, on parle beaucoup. parle énormément. Les repas sont toujours très animés, même si, voilà, de temps en temps, c'est un peu corsé, mais c'est toujours très animé. On a toujours une maison archi ouverte, donc avec toujours du passage, toujours des amis, des gens qui sont en rade. Et puis, voilà, nos engagements associatifs et les engagements de nos enfants aussi font que, en fait, il y a un melting pot d'amis, de relations, de familles et des fêtes. Ça, les fêtes, tout est prétexte pour faire des fêtes à la maison, pour danser. On adore tous danser. Donc, pour se déguiser, on a des malles pleines de déguisements. Très, très, très joyeux. Et Anne-Claire est au cœur de tout ça. Très moteur. Les années passent. Les premiers départs, donc Camille, mon aînée, décide de donner une année sabbatique et donc elle part pour un an en Amérique latine dans un orphelinat pour s'occuper d'enfants, alors qu'elle a commencé donc des études d'infirmière. C'est dans ce contexte-là que va arriver l'accident d'Anne-Claire. Le jour de l'accident, c'est donc le 2 février 2011. Elle est en vélo, toute seule. En fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe. En tout état de cause, est-ce qu'effectivement, c'est le froid et la chaussée très glissante? Est-ce que c'est la bandoulière de son sac qui se prend dans les rayons? Est-ce que c'est la bandoulière de son sac qui est accrochée par les plots de protection des passages cloutés? Nul ne le saura jamais, puisqu'elle est seule. La seule chose, c'est qu'en fait, elle fait un énorme vol plané, sans casque. Et donc, le choc est tellement violent qu'elle a immédiatement 2 traumas crâniens, un de chaque côté. Je suis au bureau, je suis en comité de direction. Mon téléphone bip avec insistance et finalement, je décroche. Et ma vie bascule à ce moment-là. J'apprends qu'effectivement, donc Anne-Claire a eu ce grave accident, que le camion des pompiers est arrivé, que le camion est immobilisé, qu'en fait, Anne-Claire est intransportable, tellement l'hémorragie est importante. Ce qui se passe dans ma tête, c'est impossible à décrire. C'est en fait, c'est tout qui se télescope. C'est à la fois le souvenir de 25 ans de bonheur, qui défile en une seconde, c'est aussi toutes les angoisses de tout ce que je peux imaginer pour la suite, même si je suis à ce moment-là dans une confiance absolue. Donc, c'est la course pour attraper un taxi. J'essaye d'avoir ma fille qui est sur le lieu de l'accident. J'essaye d'avoir notre ami médecin. J'essaye d'avoir l'ami qui est avec Anaïs, qui attend dans la rue devant le camion des pompiers. Quand j'arrive, en fait, le camion des pompiers est parti. Il est sur la route vers un centre hospitalier qui puisse accueillir Anne-Claire. Et en fait, ce qu'on nous annonce, c'est que les traumatismes sont tellement graves que non seulement Anne-Claire risque de mourir dans le camion, et que par ailleurs, en fait, pour le moment, même en région parisienne, on ne trouve aucun hôpital qui puisse l'accueillir. Et donc, des minutes et des minutes, plus d'une heure d'attente pour savoir où partir, puisqu'en fait, Anne-Claire est perdue en région parisienne, dans un camion rouge des pompiers, et je dois attendre pour savoir où je peux partir. Et là, il y aurait tellement de choses à raconter, mon trajet en voiture avec Anaïs, sur l'autoroute où, en fait, on regarde les autres voitures qui défilent, les gens qui vont vers leur quotidien tout banal. Et en fait, nous, on va vers la mort. On est hébétés, très serrés l'un contre l'autre, très, très proches. On arrive à Paris, finalement, donc dans un centre de grand trauma, où, voilà, on va attendre encore, attendre sans savoir. Sur le coup de 15 heures, on est dans une salle d'attente surchauffée avec plein de personnes qui sont comme nous, qui pleurent. Un interne arrive les mains dans les poches, fait sortir tout le monde de la salle d'attente sauf nous et me dit « Monsieur, votre femme n'a plus que quelques heures à vivre. » Elle s'arrête, elle me dit « Vous avez des questions ?» Et là, on se précipite dehors pour, voilà, pour pleurer tout notre soul. On trouve une petite chapelle. On rentre avec une bougie allumée. Et on pleure, on pleure, on pleure. Après, on retourne dans la salle d'attente, puisqu'en fait, il faut attendre. Et on attend, et on attend, et on attend. On attend jusqu'à 18h, 18h30. Et la même interne revient. Toujours, et j'ai pas de critique sur elle, en fait, c'est tellement dur, ce métier. Toujours les mains dans les poches. Et elle me dit, votre femme devrait vivre, mais elle gardera des séquelles à vie, des graves séquelles à vie. Alors, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on est. Et puis, cette entraide, cette goutte à goutte, mes frères et sœurs, mes beaux-frères et belles-sœurs, mes chers amis sont arrivés, nous soutiennent, nous apportent à boire, à manger. On prie ensemble. Et le soir, c'est quelque chose d'incroyable. Des très proches ont organisé une veillée de prière pour Anne-Claire. On arrive de l'hôpital, etc. J'hésite à y aller, etc. Et on va se retrouver, mais encerclé par une puissance d'amour, d'amitié, de quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est des choses que je n'oublierai jamais, parce qu'en fait, cet amour, c'est quelque chose que, par la suite, et encore aujourd'hui, j'ai envie de redonner. Parce que, en fait, pour moi, la chance dans cette souffrance, c'est d'avoir vécu cet amour incroyable. Et donc, ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, 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 jamais. Tant que j'aurai de la force, j'aurai envie de le partager. Alors, le diagnostic, on va être dans l'incertitude pendant 2 mois. Anne-Claire va passer des semaines et des semaines dans le coma. Coma et semi-coma. Et en fait, c'est très difficile, moi qui ne connaissais pas ces statuts. L'être qui est le plus cher à vos yeux, en fait, il est là sans être là. Avec, de temps en temps, un vague regard qui s'éclaire et puis qui s'éteint. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, on va vivre des ascenseurs émotionnels. En fait, c'est 2 mois, mais après, pendant 10 mois, jusqu'à décembre 2011. Puisqu'en fait, Anne-Claire va sortir du coma en avril. Elle partira donc pour l'hôpital de Garches, où elle va passer une année et demie. Et puis, on va vivre des ascenseurs émotionnels avec, d'abord, les médecins qui sont dans l'incertitude absolue, puisqu'en fait, la mort est tellement proche qu'en fait, la vie peut basculer. Des complications peuvent faire que Anne-Claire peut partir à tout moment. Donc, on a une première phase de reconstruction où Anne-Claire sort progressivement du coma. Elle commence à nous suivre du regard. Donc, pendant des semaines et des semaines, tous les jours, on vient les uns et les autres avec des photos pour qu'elle arrive à nous réidentifier, identifier nos enfants, etc. Donc, progressivement, elle commence à sortir quelques mots. La vie reprend et notre espoir reprend. À partir de fin mai, elle commence à nouveau à baisser. Le mois de juin, le mois de juillet sont une descente lente. Elle part dans un centre de rééducation fonctionnelle près de Granville. Et on vit un mois d'août épouvantable où, en fait, on la voit descendre, 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 malgré la qualité des soins. Elle s'éloigne de plus en plus de nous. En fait, le contact avec elle est de plus en plus difficile. Donc, elle ne parle plus. Son regard devient de plus en plus lointain. Donc, mois d'août, terrible. Et elle revient en région parisienne le début septembre. 2 jours après, un samedi matin, alors que je m'apprêtais à partir respirer un peu, reprendre des forces le week-end, je suis appelé à 8h du matin par l'interne de l'hôpital qui m'apprend que Anne-Claire est tombée dans la nuit de son lit et qu'elle est dans le coma et que les choses sont très graves. Donc, soins intensifs pendant un certain nombre de semaines. Elle part dans un grand centre de neurochirurgie de Paris. Les examens poussés nous font réaliser qu'en fait, elle a un problème d'évacuation du liquide céphalo-rachidien, ce qui fait qu'en fait, elle est en train d'imploser de l'intérieur. Elle est vraiment entre la vie et la mort. Et les équipes de neurochirurgiens décident l'opération du miracle pour poser une dérivation dans le haut du cou pour pouvoir permettre à nouveau l'évacuation du liquide et donc libérer le cerveau. Et donc, on vit à nouveau une période de 5 semaines épouvantable où, en fait, les chirurgiens remarquables tentent 8 fois la pose de cette dérivation, 8 échecs, et à la 9e opération, Anne-Claire attrape une septicémie. Voilà, c'est vraiment la fin. La fin, Anne-Claire ne bouge plus. Anne-Claire est totalement inconsciente. Il n'y a plus que le battement du cœur. Voilà, il se passe 1 jour, 2 jours, 4 jours, 5 jours. Le cœur bat toujours, mais il n'y a plus rien. Voilà, plus rien. Et donc, je me projette déjà dans l'avenir. Et les médecins lancent tous les traitements pour combattre la septicémie. Et au bout de 8 jours, miracle, l'infection s'éloigne et Anne-Claire sort du coma en l'espace de quelques heures, comme une renaissance. Alors une renaissance qui est ô combien douloureuse, parce qu'en fait Anne-Claire est hémiplégique, donc paralysée de tout le côté droit. Elle a perdu une partie du champ visuel, elle ne parle quasiment pas, mais elle est là, bien vivante. Bien vivante, elle bouge du côté gauche, elle nous regarde, elle nous sourit. Elle articule et on comprend qu'elle vit. Cet espoir qui renaît, c'est incroyable. Cet espoir, c'est en fait une... Je ne m'intéresse que aux résultats médicaux positifs, que à ce qui autorise la vie. Donc Anne-Claire va repartir à Garches, où elle va vivre un chemin de reconstruction incroyable, avec une volonté incroyable. L'hôpital décide, pour un certain nombre de raisons, de me la rendre à l'été 2012. Elle revient à la maison, voilà, 1 an et demi après l'accident. À la fois une joie immense et en même temps un effondrement sur le plan matériel, parce qu'en fait, notre maison n'est pas aménagée. En fait, Anne-Claire est largement dépendante, puisqu'en fait, elle ne peut pas se nourrir toute seule, elle ne peut pas s'habiller toute seule, elle ne peut pas se laver toute seule. Il y a une succession de personnes, et donc je vis l'enfer de 16 auxiliaires de vie qui se succèdent en 6 mois. Voilà, un enfer, et au milieu de l'enfer, des pépites, des étincelles de joie, des petits clins d'œil de joie. C'est, en fait, c'est le sourire d'Anne-Claire, c'est son rire, c'est la joie de la solidarité des amis, la présence de ma famille, de ma belle-famille. Tous ces moments incroyables qu'on a vécus et qu'on vit pendant des semaines et des semaines. Un repas qui m'est déposé sur le pas de ma porte tous les soirs. Une solidarité pour me rendre service, pour organiser des visites, des promenades pour Anne-Claire, des week-ends. Et ceux qui aident nos enfants au milieu de ça, qui sont... en études supérieures à l'étranger, en partance pour les 4 coins du monde. Anne-Claire, elle a un rythme d'orthophonie extrêmement soutenu. À force de volonté et d'écriture, elle progresse de manière incroyable, mais avec un investissement, effectivement, aussi pour nous. Pendant des mois et des mois, on répète tous les jours... avec des cahiers, avec des photos, avec les prénoms de nos enfants, de nos amis, de notre famille, les lieux qui lui sont chers. Et voilà, et progressivement, elle réapprend les mots, elle réapprend les noms propres, elle réapprend de l'histoire, de la géographie. Elle continue, voilà, à progresser, à se reconstruire. Et nous nous préparons à 2 grandes joies en 2015. Marion a 4 mois d'écart, 2 enfants. Anne-Claire, elle vit ça, les préparatifs, même si elle peut rien faire. sa robe, c'est voilà, toute la préparation, puisque c'est, ça se passe chez nous à la campagne, tous ces moments de joie qu'elle vit et qu'en fait on vit. Et pour moi, en fait, c'est toujours cet élan de vie, cette replongée au cœur de la vie, au cœur des joies, au cœur de l'amour, au cœur de l'amitié, au cœur des rencontres. Ce qui est beau, c'est qu'effectivement, à partir de 2013, au fur et à mesure qu'elle progresse en termes verbal, en termes de comportement, etc., cette complicité renaît. Au début, c'est une complicité qui est aidée par le fait que je la connais depuis 28 ans, des choses que je perçois, et puis voilà, donc alors une complicité qui n'est pas sans difficulté. Mais c'est une vie, évidemment, malheureusement ralentie, parce que plus question d'aller faire des excursions en montagne, d'aller faire une traversée de Crolles ou de Brasse en Bretagne, voilà. Mais c'est la redécouverte de complicité et de souvenirs joyeux. Tout ça, c'est des belles années, des années qui ne sont pas faciles pour autant, parce qu'en fait, il faut gérer beaucoup de choses, qu'en fait, moi, j'ai une vie professionnelle qui n'est pas forcément simple. Ce qui me fait tenir, c'est le regard d'Anne-Claire, c'est son amour, voilà, et ce qu'elle représente pour moi. Et en fait, c'est une question qui m'a été souvent posée, de savoir pourquoi je n'étais pas parti, mais parce que pour moi, c'était impossible, parce que c'était une partie de moi-même que je m'arrachais. Bien sûr, il y a des moments qui sont extrêmement difficiles, bien sûr, il y a des moments où j'ai eu envie de m'éloigner pour reprendre des forces, parce que je sais que je ne suis pas son sauveur et que je ne serai jamais son sauveur. Mais c'est pour revenir, en fait. Pour revenir, parce que, en fait, Anne-Claire, c'est la mère de mes enfants et que mes enfants, c'est aussi tout pour moi. Et que l'amour est au cœur de ce triptyque. Et qu'en fait, ben voilà, l'amour est plus fort que tout. Bien sûr, il y a des moments humainement difficiles, très difficiles. Des moments de découragement, des moments de révolte, des moments de colère contre le handicap, contre la maladie, les choses matérielles qui nous bloquent, qui nous entravent, qui nous engloutissent, la surcharge cognitive, parce qu'en fait, j'en ai dans tous les sens. Début 2018, je décide dans ma tête de changer de vie professionnelle, à la fois parce que je cherche à trouver plus de cohérence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et puis, parce que je sens qu'effectivement, je suis physiquement... J'ai brûlé beaucoup, beaucoup de mes ressources et que si je continue comme ça, j'irai droit dans le mur. Et qu'en fait, par amour pour moi-même et par amour pour Anne-Claire, je suis assez lucide pour me dire qu'en fait, il est temps de vivre une autre vie. Et comme j'ai choisi, et je continue à choisir, d'être avec Anne-Claire, à côté d'Anne-Claire, en fait, c'est mon autre équilibre de vie. Et ce qui est très important, c'est que voilà, la souffrance, elle est là. La souffrance, personne ne la désire, et la souffrance est là. Et pour moi, ce qui a toujours été essentiel, c'est de faire en sorte que la souffrance ne m'écrase pas, ne nous écrase pas, ni Anne-Claire, ni mes enfants. Et qu'en fait... si c'était possible, de faire en sorte que la souffrance me fasse découvrir autre chose de la vie et des belles choses qui font grandir et qui permettent de rester debout le plus longtemps possible. Et donc, en fait, c'est cette réflexion qui m'a conduit aussi à désirer et décider de changer de vie professionnelle à un moment donné où j'avais vraiment le désir de continuer à travailler sur l'humain. Et donc, je décide de partir dans le cadre d'une restructuration de ma banque, de refaire des études. Je décide donc de faire un master de coaching de dirigeants à HEC, à la fois pour accompagner des cadres, des dirigeants dans leur transformation professionnelle ou dans des étapes de leur vie professionnelle plus ou moins difficiles, et puis de construire quelque chose autour d'un sujet difficile en entreprise, qui est le sujet de la fragilité. Et donc voilà, donc ce choix d'une nouvelle vie professionnelle qui me rend extrêmement heureux. Alors hélas, Anne-Claire, le chemin est difficile depuis 2019 parce que Anne-Claire a eu une première rechute en mai 2019, donc avec une nouvelle hospitalisation de 3 mois et un certain nombre de séquelles cognitives, ce qui rend les échanges plus difficiles, des grosses pertes de mémoire, des problèmes de compréhension et du coup parfois des comportements difficiles. Et puis, une deuxième rechute à l'automne 2020, où malheureusement, Anne-Claire est victime d'un AVC, avec de grosses séquelles, cette fois-ci physiques, et puis aussi cognitives. Et malheureusement, nous sommes au cœur d'une troisième rechute, puisqu'en fait, elle est hospitalisée depuis une semaine. C'est un chemin qui n'est pas simple, ni pour elle, ni pour moi, ni pour nous. C'est un chemin d'un permanent lâcher-prise et en même temps l'apprentissage du vivre au quotidien, vivre l'instant présent, vivre tous les moments les plus beaux de l'instant présent. Quand je regarde les choses, je pense avoir fait beaucoup, tout ce que je pouvais pour Anne-Claire. Et en même temps, c'est affreux de tout le temps se dire que moi, j'ai encore une vie normale et elle ne l'a plus. Et que du coup, c'est affreux parce qu'en fait, tout le temps, je pense à son quotidien qui est difficile. Je pense à tous les moments où elle est seule et où elle ne peut plus faire grand-chose. Et donc, elle qui était tellement active. Et donc, voilà, je souffre pour elle, je culpabilise pour elle. Je ne devrais pas le faire, puisqu'en fait, je n'y suis pour rien dans cet accident. Mais c'est le reflet de ce qu'elle représente pour moi qui fait que les choses sont inadmissibles et sont révoltantes. Et la révolte, la culpabilité se touchent. C'est difficile, elle représente tout et rien. Rien sur le plan humain, parce que, alors, c'est pas rien, mais plus grand chose, et tout sur le plan de l'amour. C'est mystérieux, ça. Mais c'est une réalité. C'est très étrange. Avec ses presque 12 années, c'est vraiment un autre regard sur la vie que j'ai construit et que je pose aujourd'hui. Avec un regard amusé sur beaucoup de choses très matérielles qui nous ont habités et qui m'habitent, mais qui sont finalement tellement dérisoires. Puisqu'en fait, les choses peuvent basculer en une seconde. Un autre regard sur ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, sur les objectifs que nous avions et les objectifs que j'ai la prétention de dire que nous pouvons encore avoir tous les deux. Et donc, je pose un regard amusé sur mes contemporains et j'étais pareil à courir, courir sans cesse après 1000 choses qui finalement ont si peu d'importance. Pour moi, l'essentiel, c'est de renforcer mes racines, ma verticalité, en fait, trouver un vrai sens qui fait que je me lève tous les matins et que j'ai l'énergie pour avancer, pour partager, pour vivre. Pour moi, c'est plus un espoir. Pour moi, c'est une espérance. L'espoir, c'est quelque chose de très humain. C'est le désir qu'elle retrouve ses capacités physiques, cognitives, intellectuelles. L'espérance, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le fait de pouvoir justement trouver quelque chose qui nous habite profondément et qui alimente la petite lumière intérieure qu'on a, qu'on a l'un et l'autre dans le cœur. Une de mes très grandes joies, c'est mes enfants dont j'étais très proche, même si ces 12 dernières années, ils ont été aux quatre coins du monde, ils ont vraiment eu des vies extrêmement remplies. Ils ont construit aussi leur vie, puisqu'en fait, j'ai aujourd'hui 3 enfants de mariés, j'ai 6 petits-enfants. Je suis très heureux parce que voilà, même si les choses sont difficiles, même si en fait, eux comme moi ne feront jamais le deuil d'Anne-Claire, de l'Anne-Claire d'avant, en fait, ils vont bien, ils sont solides, ils ont construit leur vie professionnelle, ils ont des engagements dans le monde, des engagements associatifs aussi. Ils sont des hommes et des femmes pour le monde de demain. Et ça, c'est pour moi, c'est ce qui est la chose la plus importante.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande, des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.